Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Il est 9h30, deuxième partie de notre rendez-vous santé. La drépanocytose est une maladie du sang génétique et héréditaire, très répandue dans le monde. On estime à environ 50 millions de personnes atteintes de drépanocytose, donc notamment en Afrique subsaharienne, aux Antilles, en Inde, au Brésil. En France, on compte 12 000 malades et on recense environ 400 cas parmi les nouveau-nés chaque année. À l'heure actuelle, la drépanocytose ne se guérit pas. Alors, l'essentiel du traitement consiste à la prise en charge des symptômes résultant des crises. Avec le don du sang, les drépanocyteurs peuvent bénéficier de transfusions régulières qui traitent certains symptômes de la maladie et qui les soulagent. Mais pour cela, il faut des donneurs compatibles, pas seulement de même groupe sanguin à B ou O ou autre même, mais aussi de même origine géographique. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec nos invités déjà installés sur le plateau de la radio africaine, le professeur France Pirenne. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice scientifique de l'EFS Île-de-France et l'établissement français du sang. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, le docteur Laurent Holvoet. Vous êtes pédiatre, centre de drépanocytose à l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'objectif principal de cette émission, c'est de rappeler aux auditeurs de la radio africaine qu'il est important de donner son sang pour différentes raisons, différentes maladies, différents cas, mais aussi et surtout pour aider les personnes qui souffrent de cette maladie, la drépanocytose. Alors, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, docteur, déjà, ce qu'est la drépanocytose, expliquer un petit peu cette anomalie qui touche le sang des personnes malades?
Donc, bonjour et merci de votre invitation. Effectivement, c'est une maladie des globules rouges qui se manifeste par le fait que les globules rouges, quand ils manquent d'oxygène, ont tendance à changer de forme, c'est-à-dire au lieu d'être bien ronds, à se transformer, ils prennent une forme de croissant ou de faux, c'est ce qui a donné son nom à la maladie. Drépanocytose, ça veut dire cellule en forme de faux. Du coup, ces globules rouges sont fragiles, donc les enfants ont moins de globules rouges, donc ils ont une anémie, ça fait partie des très nombreuses causes d'anémie. Et puis ce qui est très spécifique à la drépanocytose, c'est que comme ces globules rouges sont déformés, ils vont avoir tendance à faire des bouchons dans les vaisseaux sanguins, et la plupart des complications de la maladie sont liées à ces bouchons dans les vaisseaux sanguins. Donc ces trois conséquences, ce sont l'anémie, ouais, les crises drépanocytaires qui sont liées à ces bouchons, et puis une spécificité dont le mécanisme n'est pas très clair. La rate des enfants ne fonctionne pas très bien à cause probablement de ces bouchons dans les vaisseaux sanguins de la rate. Ouais. Et donc, ils sont très sensibles aux infections bactériennes, en particulier aux infections à pneumocoque.
Alors, par rapport aux autres maladies génétiques, la drépanocytose est la plus fréquente. Heureusement, on a le dépistage néonatal et on évalue à 400 en France le nombre de naissances annuelles d'enfants atteints de drépanocytose. Que disent ces chiffres, docteur ?
Effectivement, c'est la maladie génétique la plus fréquente et il est très important de la dépister à la naissance, essentiellement pour prévenir les infections bactériennes dont je viens de vous parler. Parce que dès lors qu'on a fait le dépistage à la naissance, on va mettre en route autour de l'âge de 2-3 mois une antibioprophylaxie, c'est-à-dire qu'on va donner des antibiotiques tous les matins et tous les soirs au bébé jusqu'à l'âge à peu près de 10 ans, pour diminuer de façon très importante le risque d'infection à pneumocoque. Ouais. Et on va être aussi très vigilant sur le programme vaccinal, en particulier le programme vaccinal antipneumocoxique, qui va être un petit peu plus important chez ces enfants-là que dans la population générale.
Un autre chiffre, 5000, c'est le nombre de patients drépanocytaires qui sont suivis en région parisienne, d'où l'importance de cette émission aujourd'hui, puisque on le sait, chaque malade est différent, hein, et pour un grand nombre, le sang est le traitement principal.
Alors, c'est un petit peu exagéré de dire que le sang est le traitement principal, mais c'est le traitement souvent le plus efficace des complications graves de la drépanocytose. Donc, tous les enfants n'ont pas besoin d'être transfusés, mais quand ils ont des complications graves, le plus souvent, ils ont besoin soit d'une transfusion simple, soit même de ce qu'on appelle un échange transfusionnel, c'est-à-dire qu'on retire le sang, une partie du sang drépanocytaire, pour le remplacer par du sang normal, ce qui permet aux globules rouges de mieux circuler et de traiter les complications de la maladie.
Alors, professeur France Pirenne, vous êtes directrice scientifique à l'EFS, établissement français du sang. Dernièrement, vous avez beaucoup communiqué sur cette antenne en direction de nos auditeurs pour qu'ils puissent également de prendre part à ces dons de sang qui sont essentiels, surtout dans la lutte contre cette maladie, la drépanocytose, et aider les personnes justement à se sentir mieux. Alors, racontez-nous un petit peu les problématiques que vous rencontrez. C'est vrai que les personnes originaires du continent africain ont un peu de mal à donner de leur sang.
Alors voilà, donc en effet, au cours de la drépanocytose, eh bien, comme on l'a dit, les patients ont souvent nécessité d'être transfusés. Et la transfusion, eh bien, on doit prendre un certain nombre de précautions, et notamment on doit s'assurer que les groupes sanguins du donneur sont compatibles, c'est-à-dire à peu près équivalents au groupe sanguin du patient qui est transfusé. Or, on sait que les groupes sanguins, comme la couleur des cheveux, etc., est extrêmement variable en fonction des individus, et les groupes sanguins varient d'autant plus que les individus sont d'origine géographique différente. Donc, il y a vraiment des différences de groupes sanguins importantes entre les populations du continent africain et les populations, européennes. Et donc, en France métropolitaine, eh bien, on a un réel besoin d'avoir des dons de sang des populations du continent africain pour pouvoir être le plus compatible possible avec les patients et éviter des réactions transfusionnelles qui peuvent être gravissimes et qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital chez ces patients.
Un mot peut-être à ce sujet, docteur ?
Non, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Comme je vous l'ai dit, les complications les plus sévères nécessitent une transfusion et il arrive malheureusement et de façon imprévisible qu'on ait des complications post-transfusionnelles. Heureusement, c'est rare.
Quel genre de complications ?
En fait, ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, le receveur va détruire dans les jours qui suivent les globules rouges qu'il a reçus. Et donc, non seulement il n'aura pas le bénéfice de la transfusion, mais il se retrouvera en général dans un état qui est moins bon que celui qui précédait la transfusion.
Et la raison pour laquelle il les détruit, c'est parce que justement les globules rouges qu'il a reçus ne sont pas tout à fait compatibles, et donc l'organisme décèle cette incompatibilité et réagit en produisant ce qu'on appelle des anticorps. Et ces anticorps-là, eh bien, ils vont aller se fixer sur les globules rouges qui ont été transfusés, ils vont les détruire, et ça peut prendre ça peut donner une situation relativement catastrophique pour le patient.
Alors en France, la très grande proportion des donneurs de sang est d'origine européenne, alors que la plupart des patients atteints de drépanocytose sont d'origine africaine. Donc il y a un petit fossé qui se creuse. Est-ce que c'est une situation d'urgence ? Est-ce que, dites-nous un petit peu quelles sont les problématiques vraiment qu'on rencontre ? Est-ce que c'est urgent de s'adresser aux Africains qui nous écoutent ?
Oui, c'est tout à fait urgent de s'adresser aux Africains qui nous écoutent et qui vivent justement en France, parce qu'on souhaite vraiment que toutes ces populations de donneurs potentiels donnent leur sang, parce que nous n'avons vraiment pas assez de poches de sang compatibles pour les patients. Et donc, il est urgent d'augmenter cette ressource que l'on a dans les banques de sang. Quand on va dans une banque de sang, alors évidemment, il n'est pas indiqué sur une poche que telle poche de sang vient d'un donneur africain ou d'un donneur européen. Sur les poches, il n'est indiqué que les groupes sanguins. Et on voit bien que les groupes sanguins des poches que l'on a dans nos banques, eh bien, ne peuvent pas être toujours compatibles avec nos patients. Donc, on a vraiment besoin d'augmenter cette ressource, et on fait un réel appel aux populations africaines pour venir donner en nombre leur sang. Alors, comme pour tout donneur, bien sûr, il peut y avoir des contre-indications au don. Elles sont exactement les mêmes pour les donneurs africains, les donneurs européens, etc. Et une situation notamment d'ajournement, c'est quand un donneur a voyagé. Ouais. Parce que dans les pays, que ce soit en Afrique, au Brésil ou ailleurs, eh bien, on peut donc être sujet à être infecté par un certain type de maladie, notamment le paludisme, ouais, qui qui est une maladie qui se transmet par le sang. Et donc, si quelqu'un revient d'Afrique, par exemple, il ne pourra pas donner tout de suite son sang. On va, ce qu'on appelle, l'ajourner et lui demander, on va faire des tests et ensuite lui redemander de venir dans 4 mois lorsque l'on aura bien vérifié qu'il n'a pas été infecté. Mais ajourner ne veut pas dire contre-indiqué définitivement.
Ça veut dire qu'on peut donner 4 mois après.
Quand un donneur est ajourné, il ne faut surtout pas qu'il se dise « Ah ben, je ne peux plus donner mon sang, je ne vais plus revenir ». Au contraire, il faut qu'il revienne au bout d'un certain délai et qu'il donne son sang.
On reviendra sur les autres contre-indications tout à l'heure, si vous voulez bien. Avant cela, vous pouvez vous munir du casque, puisque nous allons aller au téléphone de la radio africaine pour accueillir un auditeur. C'est Jimmy, qui est un jeune drépanocytaire de 20 ans. Bonjour et merci de nous rejoindre, Jimmy. Bienvenue.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va et vous, merci.
Ça va, bonjour. Nous vous écoutons, Jimmy, allez-y.
Moi, j'aimerais témoigner, en fait, parce que j'ai cette maladie depuis toujours, quoi. C'est dans le sang, mais elle a été diagnostiquée depuis que je suis tout jeune, en fait. J'ai d'abord eu des soucis des crises vaso-occlusives, mais quand j'étais plus petit, c'était pas forcément très connu comme maladie et j'étais dans un endroit où c'était pas forcément très connu. Du coup, ça s'est vite aggravé en fait.
Ouais.
Donc ça s'est vite aggravé. J'ai eu ce qu'on appelle une ostéomyélite qui m'a fait passer beaucoup de temps dans les hôpitaux justement et avec les docteurs qui m'ont bien expliqué la maladie, tout ça. C'est pour ça que j'aimerais vraiment dire à vos auditeurs, en fait, qu'il faut vraiment donner son sang, c'est très important.
Très important, oui.
J'ai déjà eu aussi, j'ai entendu vous en parler avant, des transfusions, j'ai eu des échanges transfusionnels pendant quasiment 6 mois, une fois par mois, ce qui a beaucoup aidé pour ma maladie, en fait, ça m'évitait d'avoir des crises régulières, parce que pendant un moment, je faisais vraiment beaucoup de crises suivies. Et grâce à ça, ça m'a évité justement d'avoir autant de crises régulières. Et depuis quasiment maintenant 2 ans, je prends aussi un médicament qui s'appelle le Cyclos.
Ouais.
Et c'est un médicament, un comprimé par jour. Et ça aussi, ça aide beaucoup pour les crises de drépanocytose, vraiment beaucoup.
Alors, docteur Rollwood, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet auditeur ?
D'abord, merci pour ce témoignage. Il est très intéressant à plusieurs titres. Il montre effectivement que Jimmy a eu une complication assez sévère de la drépanocytose qui s'appelle une ostéomyélite aiguë. Hein, parce que comme le sang ne circule pas très bien dans la drépanocytose, les infections osseuses qui déjà sont difficiles à traiter chez tous les patients, parce que l'os est un organe qui n'est pas bien vascularisé, c'est encore plus difficile dans la drépanocytose. Et donc j'imagine qu'il a dû être opéré pour son ostéomyélite et quand on fait une intervention chirurgicale chez un patient drépanocytaire, il est très important de faire précéder cette intervention chirurgicale d'un échange transfusionnel parce que le risque anesthésique est beaucoup plus important chez les drépanocytaires que chez les patients non drépanocytaires.
D'accord.
Et du coup, en fait, on les rend entre guillemets non drépanocytaires pendant la période avant, pendant et après l'opération, de façon à ce qu'ils aient un risque opératoire et anesthésique qui soit un risque normal. Après, il a dit qu'on a continué à lui faire des échanges pendant plusieurs mois. Ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'en particulier dans les complications ostéo-articulaires, le fait de faire des échanges réguliers va permettre d'améliorer la cicatrisation osseuse et de permettre aux antibiotiques de mieux pénétrer dans l'os et de façon à bien traiter l'infection osseuse. Et la deuxième chose qu'il a dite qui est très intéressante aussi, c'est que ces transfusions ont été arrêtées et elles ont été entre guillemets remplacées par un médicament qui est extrêmement efficace et qui marche très très bien dans la drépanocytose,
ouais,
qui s'appelle l'hydroxycarbamide.
Ouais.
Il y a deux noms de médicaments, Hydrea ou Cyclos, c'est la même chose. Et c'est vraiment un médicament extrêmement efficace dans la diminution de la fréquence et de la sévérité des crises chez les patients drépanocytaires.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure gestion de la maladie et de la gestion des douleurs et des crises, Jimmy ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Merci en tout cas pour votre appel et votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage et puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Ça marche, merci beaucoup.
Oui, docteur, vous voulez lui dire quelque chose ?
J'ai encore un petit commentaire à faire sur l'intervention de Jimmy. En fait, j'avais un troisième commentaire à faire. Il a dit que, si j'ai bien compris, il a une vingtaine d'années. qu'il y a 20 ans, on ne connaissait pas bien la drépanocytose. C'est tout à fait vrai. Moi, quand j'ai fait mes études, mon internat, ça commence à remonter aux années 80, j'ai presque pas vu de patients drépanocytaires dans mon internat. Et actuellement, on suit à peu près, enfin plus de 1000 patients à Robert-Debré. Et donc, on a une bien meilleure connaissance de la maladie. Et en plus, on a le recul qui nous permet maintenant de dire que les enfants qui ont reçu de l'hydréa ou du cyclos petit, une fois qu'ils sont adultes, à 20, 30, 40 ans, vont beaucoup mieux.
Il y a donc beaucoup d'espoir. Jimmy, merci en tout cas pour votre appel. On vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Alors, on parlait tout à l'heure des contre-indications au don de sang, mais moi, je voulais aussi revenir, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, sur les freins. Quels sont les freins, selon vous, pourquoi les personnes d'origine africaine, ou en tout cas qui viennent du continent africain, ont un peu de mal à donner? Est-ce que ce sont des raisons anthropologiques, des raisons religieuses, des raisons culturelles, selon vous, professeur?
Écoutez, je pense que c'est un peu tout ça, en fait. Vous avez un peu résumé la question, avec chaque individu ayant ses propres freins. Mais je me demande aussi si la communication sur le don de sang arrive toujours à l'ensemble de la population. Peut-être que des personnes se sentent moins concernées que d'autres pour donner leur sang. Le don de sang, tout le monde doit donner son sang, quelle que soit son origine, quelle que soit... enfin aussi peut-être ces situations socio-économiques, etc. Donc il est important que tout le monde donne son sang, et aussi les populations d'origine africaine. Alors pourquoi on a moins de donneurs dans cette... Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on a moins de donneurs, c'est qu'on n'a pas assez de donneurs dans la population donc du continent africain. Il y a probablement en effet des freins culturels, mais que j'aurais moi-même des difficultés à expliquer, en fait, et donc je pense que d'en parler peut lever ses freins. Le don de sang, c'est facile, en fait, hein. On arrive, ça prend 10 minutes. Bon, certes, on vous demande, on vous pose un tas de questions, mais toutes ces questions que l'on vous pose dans le questionnaire, c'est pour s'assurer d'abord que le donneur est en bonne santé et peut donner son sang, parce qu'on ne va pas aller prélever du sang à des donneurs qui peut-être sont déjà malades, hein. Ouais. Et ensuite, le reste du questionnaire, c'est pour s'assurer que le donneur, le don de sang du donneur, va être un sang qui peut être transfusé en toute sécurité aux patients, et surtout ne va pas véhiculer d'infection. Et ça, c'est important.
Alors, au téléphone, c'est Madame Ramatoulaye. Elle est présidente de l'association des familles drépanocytaires. Merci de nous rejoindre, Madame Ramatoulaye. Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui.
Bonjour.
Je vous remercie de votre invitation. Donc, ça, c'est un sujet vraiment très intéressant et qui me concerne directement, parce que je suis présidente d'une association qu'on appelle l'association des familles drépanocytaires.
Oui.
Et que je suis concernée directement parce que j'ai 3 enfants drépanocytaires SS. Et donc, le don du sang, ça nous a beaucoup aidé. Donc, j'ai toujours sollicité et demandé aux gens surtout les ressortissants de l'Afrique, de donner leur sang. Mais il y a...
Comment vous leur expliquez, justement, comment, qu'est-ce que vous leur dites pour les sensibiliser et qu'ils comprennent que c'est important?
Ben, j'ai toujours, le côté humanitaire.
Ouais.
C'est-à-dire, je dis, vous donnez votre sang, c'est pour sauver les vies.
Ouais.
C'est pas seulement parce que je suis concernée, j'ai des enfants malades, mais ça peut même vous sauver, vous, la vie un jour. Vous pouvez avoir un accident, quelqu'un peut accoucher, perdre beaucoup de sang, et ça peut sauver beaucoup de vies. Donc, je mets toujours en avant le côté humanitaire.
D'accord.
Mais ça ne marche pas toujours. J'arrive pas à avoir un déclic qui le pousse à donner le sang. Oui, j'arrive pas. Oui. Mais j'essaie d'aller dans les foyers, dans des associations où les Africains y se regroupent. Je fais des sensibilisations, mais il y en a qui écoutent, mais il y en a d'autres qui n'écoutent même pas, qui disent que cette dame, elle parle de taralala, donc ils ne s'écoutent même pas. C'est ça le problème, ça ne marche pas beaucoup.
Merci pour votre engagement, en tout cas, et merci pour votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1. On vous souhaite beaucoup de belles choses, et puis à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Alors justement, à ce sujet, nous allons écouter l'extrait d'une interview de l'imam Abdelali Mahmoud. Il explique ce que dit le Coran concernant le don de sang, mais aussi le don de moelle osseuse et le don d'organes. On l'écoute et on se retrouve juste après.
Le don de moelle osseuse, à l'instar des dons d'organes ou des dons du sang, est un acte de générosité et de bonté pieuse qui est incomparable. En effet, contrairement au fait de donner l'argent quand on donne de la moelle osseuse ou quand on donne un organe après sa mort, par exemple, c'est donner la vie. Ce n'est pas simplement subvenir aux besoins d'un pauvre pendant un moment précis. Donc, il est tout à fait apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala que tout un chacun, s'il a la possibilité de faire des dons de sang, eh bien, à partir du moment où il n'y a aucun risque pour le donneur, eh bien, c'est un acte très pieux et très apprécié. Dieu dit dans le Coran, concernant le fait de sauver une âme, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui donne la vie, eh bien, c'est comme si qui donnait la vie à toute l'humanité. Eh bien, c'est un acte de générosité, c'est un acte de charité noble, c'est une sadaqa qui est extrêmement récompensée et c'est surtout une porte, une occasion pour justement ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire des dons, eh bien, que de donner, par exemple, leur sang. Voilà ce que dit l'islam sur ce sujet.
C'était important de le rappeler dans cette émission et nous retournons au téléphone de la radio africaine pour accueillir Victor. Bonjour Victor, allez-y rapidement pour votre question, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Parce que dans mon esprit, c'est pas très très clair. Hein. Je vois pas la différence. Je sais que les groupes sanguins sont les mêmes, que ce soit chez les Européens ou Africains. Le groupe HLA, je pense que c'est le même. Mais je vois pas vraiment la différence. On dit qu'il faut que le donneur receveur soit de la même origine, mais je vois pas vraiment le groupe sanguin.
Alors on va essayer de vous réexpliquer en quelques mots, c'est assez complexe, hein, mais allez-y professeur.
Oui, alors je vais vous réexpliquer, je vais essayer de donner un exemple précis. Par exemple, il y a un système de groupe sanguin qui s'appelle, il y a beaucoup de systèmes de groupe sanguin, il y en a 36, hein, déjà. Bon, il y a un groupe sanguin particulier qui s'appelle Rhésus. Et dans ce groupe sanguin particulier, il y a plusieurs molécules qui sont à la surface des globules rouges. Il y en a notamment une qui s'appelle grand C, voilà, la lettre grand C. Eh bien, dans les populations d'origine européenne, ce grand C, il est très fréquent à la surface du globule rouge, alors que dans les populations africaines, il est plutôt absent. Voyez, donc c'est des choses qui sont absentes ou présentes. Et si vous amenez ce globule rouge avec du grand C à la surface à un patient qui ne l'a pas à la surface de ses propres globules rouges, eh bien l'organisme du patient receveur, il va voir ce grand C qui lui arrive comme étranger. C'est comme si on vous apportait un virus et vous le voyez comme étranger. L'organisme réagit et produit ce qu'on appelle des anticorps et va aller détruire ces globules rouges qui sont dans son organisme avec cette molécule qu'il considère comme étrangère.
Donc voilà. Il y a une anomalie en fait, voilà. Une anomalie se crée donc à ce
voilà. moment-là. Voilà, et à ce moment-là il y a une réaction si vous voulez. Donc c'est les groupes sanguins en effet, ils sont les mêmes. Il y a du ABO, il y a du Rhésus, il y a toutes sortes de groupes sanguins sur les globules rouges de toutes les populations, ouais. Mais c'est la répartition pour chaque groupe sanguin des différents constituants qui est différente. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. C'est un très petit bien. Peu compliqué, mais voilà.
Voilà, Victor.
Très bien, c'est le grand C qui me manque. Et là, j'ai compris maintenant.
Voilà. Il est fort probable que vous n'ayez pas le grand C à la surface de vos globules rouges. Mais ce n'est pas une maladie, c'est simplement une caractéristique.
À voilà. Très bientôt.
Très bien.
Au revoir. Beaucoup. N'hésitez pas à aller sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, pour en savoir un petit peu plus sur les endroits où vous pourrez donner votre sang. N'hésitez pas à aller sur Internet. Alors, on va essayer de conclure cette émission. Un tout dernier mot, l'un et l'autre. D'abord, vous, docteur Laurent Holwood, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour terminer?
J'ai envie de dire qu'il faut essayer d'avoir le plus de dons possibles de sang en général, parce qu'effectivement, ça ne concerne pas que la drépanocytose, mais effectivement, comme Madame Rahmatoullah, il a très bien dit, des gros consommateurs de sang sont les services d'obstétrique, parce qu'il peut y avoir des hémorragies sévères au moment de l'accouchement, et donc privilégier aussi, effectivement, le don du sang dans la population africaine pour nos petits patients drépanocytaires, enfin petits et grands.
Et adultes.
Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Petit et grand.
Professeur France Pirenne, que vous avez envie de dire pour terminer?
Moi, je remercie le témoignage de cette dame qui est responsable d'une association. Et je la remercie d'essayer de porter cette parole. Et donc, en effet, plus il y aura d'ambassadeurs pour la promotion du don de sang, d'une manière générale, mais aussi dans la population africaine, eh bien, plus on pourra, en effet, sauver des vies. Et donc, c'est extrêmement important. important.
On peut aller sur le site de l'EFS pour savoir où on peut se rendre près de chez soi pour
exactement,
donner son sang.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Dans un instant,